écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. On vous propose un épisode spécial ce samedi. Olivier Van de Castel a été libéré hier. Le travailleur humanitaire a été détenu en Iran 455 jours. On vous explique tout de suite comment il a finalement été libéré. Nous sommes le samedi 27 mai. Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Vous voyez son visage sur des affiches accrochées aux fenêtres depuis des mois. Il est enfin libre depuis vendredi matin. Olivier Van de Castel avait été arrêté le 24 février 2022 en Iran et puis condamné pour espionnage. Après 455 jours de détention, le travailleur humanitaire a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers avec Téhéran. Pauline Hoffmann est journaliste au pôle international. Elle est venue dans notre studio pour nous faire le récit de cette libération avec notre éditorialiste en chef, Béatrice Delvaux. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Comment a été libéré Olivier Van de Castel?
Sa famille a été prévenue vendredi matin à 8h30 par les membres du gouvernement belge. Ils ont été convoqués, ils ont été accompagnés toute la journée. Et en fait, Olivier Van de Castel a quitté Téhéran vendredi matin également, après avoir été pris en charge par une équipe médicale belge qui est allée à Téhéran pour ça, s'assurer qu'il était en état.
Et il était en état de voyager. Quel est son état de santé aujourd'hui?
Alors son état de santé, visiblement, en tout cas, lui l'a permis de voyager en avion. Il est pris en charge par un psychologue pendant tout le trajet. En tout cas, on a vu une photo de lui debout, ce qui est rassurant parce qu'il n'a pas été debout tout le temps. En fait, il avait des problèmes de santé importants après les mois de torture qu'il a vécu dans les prisons de Téhéran. Il est debout, il est en état de voyager en avion. La suite, on verra après, mais visiblement, il va quand même relativement bien.
Vous en avez parlé, cette photo que le Premier ministre Alexander De Croo a diffusée. On voit Olivier Van de Castel debout dans l'avion militaire, habillé en chemise et en costume. Pourquoi cette photo?
Donc c'est une photo qui a plusieurs intérêts. En fait, évidemment, elle a aussi pour intérêt pour le public de voir qu'Olivier Van de Castel est là, de voir qu'il est vivant, de voir que voilà, c'est réel en fait ce qui est en train de se passer. Il est libre. Elle a été prise avant le décollage de l'avion, avec son accord, évidemment, avec l'accord de sa famille. C'est lui qui a fait le choix de diffuser cette photo. Et donc elle a été prise par un photographe des affaires étrangères qui a accompagné l'équipe de diplomates, l'équipe de la défense dans cette opération Blackstone.
Je pense que la photo, elle a une portée émotionnelle. En plus, c'est la chose qu'on veut voir d'abord. Tout est dans la photo, en fait. Déjà, tout est dans la photo d'un homme debout. Alors, c'est paradoxal. Ça a l'air d'une photo de cérémonie parce qu'il est en costume. C'est un peu, il y a un côté un tout petit peu bizarre, en fait. Hein. Quand on a vu cette photo, on s'est dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est? Où il est? On est presque rassuré de voir les morceaux de là où on attache les parachutes qui sont derrière lui. On se dit, ah bah oui, ok. Mais je pense que psychologiquement, vu aussi le délai avant qu'il arrive et peut-être le fait qu'on va peut-être pas tellement le voir beaucoup à son arrivée, c'est une manière d'envoyer une image et de reprendre une forme de liberté sur la manière dont il va gérer son arrivée. L'ambassadeur de Belgique à Téhéran est venu identifier Olivier Van de Castel lorsqu'il a été amené par les Iraniens à l'avion pour bien vérifier que c'était lui. Et c'est lui, l'ambassadeur, qui a donné le go pour qu'il monte dans l'avion en disant « c'est bien lui, il peut monter ».
Pour bien comprendre, on peut reprendre l'histoire depuis le début. En fait, qui est Olivier Van de Castel et comment il s'est retrouvé emprisonné en Iran?
Donc, Olivier Van de Castel, c'est un travailleur humanitaire qui est originaire de Tournai et qui a vécu de nombreuses années en Iran pour ses missions humanitaires. En fait, il travaillait notamment auprès d'un public de migrants afghans. Il a quitté Téhéran pendant quelques semaines et puis, en fait, au bout d'un moment, il est retourné là-bas. Sa famille raconte que c'est pour régler une histoire de bail. Il a passé un peu de temps avec ses amis sur place. Et un soir, quelqu'un toque à la porte de l'appartement où il mange des pizzas avec ses amis. Là, c'est des personnes qui viennent le prendre et il termine dans une prison, la prison d'Evin, à Téhéran. Il passe 15 mois en prison dans des conditions absolument infâmes. Je rappelle juste qu'il est à l'isolement 14 mois sur les 15, ce qui veut dire qu'il ne parle à personne pendant 14 mois. Il n'a pas de matelas, il a la lumière allumée 24 heures sur 24. Il peut à peine sortir de sa cellule et mange très très mal. Donc voilà, c'est un travailleur humanitaire qui est incarcéré dans le cadre d'une diplomatie des otages menée par l'État iranien pendant 15 mois. Quoi.
Alors vous parlez de diplomatie des otages, son sort a été lié à celui d'une autre personne condamnée pour terrorisme en Belgique à 20 ans de prison, qui s'appelle Assadollah Assadi. Vous pouvez nous en dire plus?
Assadollah Assadi, c'est un diplomate iranien qui a travaillé pour l'ambassade de Vienne et qui a été condamné en Belgique pour l'organisation d'un attentat qui devait se dérouler en France. C'est un petit peu compliqué, c'est une histoire européenne. Mais en gros, il est considéré comme le cerveau d'un attentat à la bombe qui a été déjoué contre un meeting d'un mouvement d'opposition iranienne qui devait se passer à Villepinte. Et en fait, c'est la Belgique qui l'a jugé parce qu'on estime qu'une partie de l'attentat a été organisée sur le sol belge. Cet homme a été condamné et évidemment, Téhéran apprécie assez peu qu'un de ses diplomates soit en prison en Belgique. Et donc vraiment, prendre Olivier Van de Castel, c'est réclamer la libération d'Assadollah Assadi.
Comment justement leur sort s'est retrouvé lié ? Comment Olivier Van de Castel s'est retrouvé dépendant quelque part du sort d'un diplomate terroriste iranien ?
Ça, on l'attendait à partir du moment où Assadollah Assadi est transféré vers la Belgique pour y être jugé. Les services des affaires étrangères belges disent tout de suite ça augmente le niveau de risque sur les ressortissants belges. Aucun doute là-dessus. Ils savent très bien que ça agace profondément l'Iran. Il y a des contacts entre l'Iran et la Belgique. Et l'Iran dit on refuse ce procès, on refuse que vous condamniez un de nos diplomates. Donc voilà, le niveau de menace monte, jusqu'au jour où le 24 février 2022, Olivier Van de Castel est arrêté. Et là, les services des affaires étrangères savent tout de suite que c'est pour récupérer Assadollah Assadi. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Certains diplomates disent que les Iraniens sont intervenus à plusieurs reprises auprès des autorités belges pour que les conditions de détention de Assadi soient correctes. Dans un autre type d'État que l'État belge, en fait, on aurait peut-être pu dégrader les conditions de détention d'Assadi. C'est-à-dire ce que les Iraniens ont fait d'un côté, les Belges auraient pu le faire avec leurs propres prisonniers iraniens, mais l'État belge, les autorités belges ont toujours dit qu'on était dans un état de droit et qu'il n'était pas question de traiter Assadi de façon différente. Il fallait traiter selon les conventions qui gèrent les détentions des prisonniers et selon les droits de l'homme, en fait. Ce qu'on fait en Iran ne se fait pas en Belgique.
Comment Olivier Van de Castel a été finalement libéré après tout ça ?
Ça se passe après plusieurs rounds de négociations diplomatiques évidemment entre l'Iran et la Belgique. Le dernier a fonctionné, Olivier Van de Castel est de retour en Belgique. Il y a aussi eu évidemment 7 contacts directs entre la ministre des Affaires étrangères Adjal Habib et son homologue iranien. Il y a eu un contact direct entre le président Ebrahim Raisi, le président iranien, et Alexander De Croo, plus des multitudes de contacts diplomatiques. In fine, c'est l'entremise du sultanat d'Oman, donc un pays du Golfe, qui a permis de visiblement arrondir les angles et de vraiment mettre le dernier coup à la libération d'Olivier Van de Castel.
Pauline, ce qui a un peu mis la pression sur les autorités belges de façon très spécifique, cette histoire qui aujourd'hui on a peut-être un peu perdu de vue, mais qui était l'idée de l'intervention de la Cour constitutionnelle, du Parlement, est-ce que c'était quoi cette histoire en fait ? Est-ce que finalement c'était déterminant ça ?
Ça a été très long et très compliqué. Donc si je résume, il y a un traité de transfert de prisonniers qui existe aujourd'hui entre la Belgique et l'Iran qui avait pour but justement d'être dans les cadres de la loi et de se dire on a un prisonnier iranien en Belgique, il va demander à être transféré en Iran théoriquement pour purger sa peine, on sait très bien que ça ne sera pas le cas, mais voilà. Et d'un autre côté, on va avoir un prisonnier belge en Iran qui va demander à purger sa peine en Belgique, ça ne sera évidemment pas le cas.
Une loi un peu faite sur mesure pour cet échange de prisonniers de ces deux personnes spécifiques.
Évidemment, oui, c'est vraiment une loi qui sert à mettre dans le cadre de l'état de droit un échange d'otages, en fait. Enfin, un échange d'otages d'un côté et de prisonniers de l'autre. En tout cas, de répondre à cette diplomatie des otages. Le problème, c'est que quand on passe par les cadre de l'état de droit, il y a des recours. Et il y a eu des recours. Il y a eu de nombreux recours. On est à des mois de recours. In fine, le gouvernement belge s'est rendu compte que face à de prochains recours qui allaient potentiellement arriver, ça mettait en danger la vie d'Olivier Van de Castel, puisqu'il était dans un état de santé assez grave. Il y avait des craintes sur d'autres condamnations plus lourdes. Donc, on pense évidemment à une condamnation à mort en Iran. Donc, il fallait trouver un nouveau chemin juridique pour permettre la libération d'Olivier Van de Castel. Et cette fois, ils ont décidé de passer par un arrêté royal qui se base sur un article de la Constitution pour permettre cette libération.
Ce qui est drôle, c'est que là, on retrouve toute l'ingéniosité belge et le fait qu'à un moment donné, en Belgique, à un moment donné, on dit souvent cet État qui fonctionne, peut-être qu'un cas. D'abord, on va souligner le fait que l'État de droit chez nous n'est pas un vain mot, c'est quand même très important. Mais deux, que quand il faut faire quelque chose d'absolument indispensable auquel on tient vraiment, nécessité fait loi. Et la nécessité fait loi, elle est servie par une ingéniosité constitutionnelle. Hein. On dit souvent qu'on est compliqué, que les institutions belges sont compliquées, mais on est aussi très très bon quand il faut inventer des choses. Et donc ici, ils ont eu recours à un bout d'article de loi, un morceau de la Constitution qui permet, c'est compliqué à expliquer, mais de faire jouer un petit peu le parapluie royal. Donc il y a, et qui moi me fait penser par son ingéniosité et l'urgence de la chose et la volonté d'un peuple quelque part de passer à l'acte et de libérer cet homme, elle me fait penser à ce qu'on avait trouvé qui était l'empêchement de régner de Baudouin à l'époque où on avait voulu faire voter absolument la loi sur l'avortement. Et bien, on avait trouvé un artifice, quelque chose qui était un peu belge, un peu ingénieux, un peu absurde, un peu surréaliste et qui a permis de passer à l'acte. Et ici, c'est un peu la beauté de la chose aussi, c'est qu'au bout du compte aussi une forme de réalisme, c'est qu'à un moment donné on se rend compte dans toutes ces affaires de façon générale, bon, on sait que les libérations d'otages se font toujours dans des conditions qui ne sont pas parfaitement transparentes, qui sont à la limite de la légalité, qui sont le fruit de tractations. Et ici, ben, finalement, au bout du compte, c'est la tractation diplomatique qui fait la libération. La deuxième chose qui fait la libération, qui est extrêmement importante, c'est la mobilisation des gens. On a fait récemment une grande interview de Florence Aubenas, qui va paraître d'ailleurs dans les semaines qui viennent, et on lui parlait d'Olivier Van de Castel, et on lui demandait qu'est-ce qui est le plus utile. Elle disait, mais la mobilisation est fondamentale parce que nous, quand on est là-bas, elle dit comme otage, on ne le sait pas. Mais c'est la seule manière pour nous de garder un visage, une parole, la mobilisation de la famille, évidemment. Moi, j'étais très étonnée que dans de nombreux endroits de Belgique francophone, majoritairement, la photo d'Olivier Van de Castel, je suis dans mon petit village natal, eh bien, la photo d'Olivier Van de Castel était dans différentes fenêtres. Et ça, c'était quand même assez impressionnant.
Je rebondis là-dessus parce que j'ai évidemment eu la famille et les proches d'Olivier Van de Castel plein de fois au téléphone. Je les ai rencontrés plein de fois. Il faut dire à quel point c'était juste essentiel pour leur permettre de tenir pendant ces longs mois. Sans ça, ils le disent, et je peux en témoigner par l'émotion qu'ils mettaient quand ils me parlaient de cette mobilisation. Sans ça, ils y seraient jamais arrivés. Et je voudrais juste quand même souligner l'énorme courage de Nathalie Van de Castel, la sœur d'Olivier Van de Castel, qui s'est démenée comme une lionne pour faire libérer son frère, et aussi de son meilleur ami Olivier Van Starteghem, qui a vraiment mis sa vie entre parenthèses pendant 15 mois pour faire libérer son ami. Je ne sais pas s'il y a plus belle preuve d'amitié au monde que ça.
L'opération de libération a été appelée Blackstone. Pourquoi ce nom ?
Blackstone, William Blackstone, qui est un juriste du XVIIIe siècle, qui est connu notamment pour avoir prononcé une phrase qui est « Il vaut mieux que 10 coupables s'échappent plutôt qu'un innocent souffre ».
Justement, échanger en otage contre un terroriste condamné dans un pays d'état de droit, ça pose question ?
Ça pose évidemment plein de questions. Ça pose des questions sur est-ce qu'on ne donne pas du carburant à l'Iran pour refaire ce qu'ils ont fait avec Olivier Van de Castel. Ça pose des questions sur la valeur de notre justice. Ça pose des questions sur la valeur d'une vie humaine. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour une vie humaine, qui est celle d'Olivier Van de Castel, et aussi sur les moyens que l'État met en œuvre pour ses citoyens, quoi.
Éditorialement, le soir, avec la plupart des titres de presse francophone, de médias, se sont unis pour faire un geste très important plaidant pour la libération d'Olivier Van de Castel. Donc éditorialement, c'est le parti et la position que le journal a prise. C'est vrai que certains disent aujourd'hui, ce qui est sans doute vrai, que Olivier Van de Castel, à un moment donné, quand il y a eu cette hausse de la menace, aurait pu se dire, tiens, j'aurais pu partir plus tôt. Mais ce ne sont jamais ces éléments-là. Une fois que la personne est en prison, otage, quand même, c'est l'honneur d'un pays que de pouvoir assurer à ses ressortissants que où qu'ils soient, quoi qu'il se passe, ils seront là, l'État sera là, le monde politique sera là, un peuple sera là pour qu'aucun des siens ne reste tenu d'une manière injuste, ignoble, enfermé, perdu, sans que nous puissions l'oublier, parce que nous savions qu'il était là, nous savions ce qu'il subissait, et on ne peut pas décemment continuer à vivre en sachant qu'un des nôtres vit dans ces conditions, où qu'il soit.
Merci Béatrice, merci Pauline.
Merci.
Au revoir.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient mardi matin. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à parler de notre podcast et à partager nos épisodes autour de vous. À mardi.